là, Camille Moudazi, Morgane.
Bah, salut.
Bah alors.
Bah évidemment.
Bah tiens, Fanny Ruet.
Mais oui,
Tanguy Vassuron, ouais. Sur le Daniel Morin et nos invités Valérie Bonneton et Marc Dugas.
Oh là là, oh là.
Mais bravo.
C'est donc aujourd'hui que nous allons parler de Eugénie Grandet.
Oh, on a envie de le dire comme ça.
Ouais. Oui, Eugénie. On a voulu l'inviter, elle n'est pas venue.
Non.
Et donc son auteur, co-auteur avec Balzac, Marc Dugain, sera avec nous.
Ils ont bossé à deux, ils ont bien bossé. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Comment on revisite l'histoire de la littérature là, en deux phrases, c'est grandiose.
Balzac a été l'écrivain de l'ombre. C'est comme ça que disaient les Anglais plutôt que nègre, qui n'est pas très joli en français.
Shadow
Rider. De Marc Rider.
Une seule syllabe.
C'est d'autant plus dingue qu'hier, avant-hier, Ed Sheeran m'a dit on déteste les Français quand ils veulent faire genre on part anglais.
Mais on déteste les Français tout court, je pense.
Merci Fanny.
C'est ça qu'il a voulu dire.
Ils aiment les Français qui disent.
Ils ferment leur gueule.
Shadow writer.
The artist.
Voilà, ils aiment qui parlent comme
ça. Gérant.
Alors que si tu fais Shadow writer, ils détestent. Bon, bref. Mais c'est pas grave, il n'est pas notre invité. Donc, nous allons parler d'Eugénie Grandet dans quelques instants. Et donc, quel blind test on fait avec Eugénie Grandet?
Tous les génies, ouais.
Tous les génies.
Eugénie, ouais.
Qu'est-ce que t'as comme Eugénie en chanson, vas-y.
Eugénie ma belle, la grande Eugénie. Eugénie, tu me fatigues.
La thune.
Eugénie, je vous aime.
Eugénie aussi. Comment c'est Félicie.
Félicie.
Non.
Leïla,
oui.
Viens voir les comédiens.
Oui.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens.
Ah, la comédie humaine.
Voir les magiciens.
Ah là là.
Qui arrive bien, voir les
comédiens.
Ça sent la déconne.
C'est difficile.
Daniel.
Morgan.
Oui.
Jane Birkin.
Pardon.
Jane Birkin.
Elle n'est pas seule.
Etienne Dao.
Non.
Zut, c'est tellement bon.
J'ai mis point alors.
Ah oui, mais je veux l'autre.
On s'aime, mais c'est
chaud.
Oui. Ouais.
J'en ai des mots d'amour qui sortent.
Et ça s'appelle Comédie.
Maladivement caché comme chez les autres hommes.
Qui chante ça?
Véro ?
Oui, mais c'est ton prénom ?
Véronique Sanson.
C'est ton prénom ?
Leïla, oui. J'aimerais que ça soit...
Mais qui est Comédie Sanson ? Je comprends rien. Leïla Sanson.
Et ça s'appelle Étrange Comédie. Attention, ça va aller très vite. Je vous préviens les filles, parce que c'est du Daniel Morin en bar, ce qui va arriver.
Attends,
maintenant.
C'est un truc ancien ?
Un truc exigeant.
C'est un truc, c'est un truc Daniel Morin.
Leïla ?
Ouais.
Antisocial, non ? Ah non !
Oh. Daniel ?
Oui.
Trust ?
Oui.
Voilà. Non ! Ça sentait tellement cette guitare, mais c'est mince, mais ça commence pas pareil.
C'est le même album.
Mais oui. On sent la même prod.
Merci Leïla. Ah oui, c'est la même.
Non.
C'est même pas une passe décisive,
voilà,
c'est un but contre son camp.
Il y a eu poteau et ça m'est tombé sur le pied.
J'ai glissé.
J'adore ce point.
De quoi est fait demain? On l'a su assez tôt. Le soleil ne brille plus. À neuf le château. En potant le vieillard a relancé la bagarre.
Vous vous souvenez de cette chanson?
Non.
Pas du tout.
C'est sur Khomeini, en fait. Et tout est sur les talibans et l'extrémisme. Écoutez. Monsieur Comédie.
Sous sa peau flasque, blindé comme un tank. Il vit sous une tente, protégé comme une banque. Tirant de son exil, il n'a fait que prière. Derrière le dieu croyant, se tairait le tortionnaire.
Derrière le vieux croyant se tairait le tortionnaire.
Oh, c'est beau, ça
a envoyé.
Ah ouais.
Ça a envoyé. Donc, Comédie pour Eugénie Grandet. Et quel est ce titre, s'il vous plaît ? Les interprètes. Ou le titre. Mais donnez-moi votre prénom.
Si je connais ça. Attends.
Daniel.
Leïla.
Ouais, Daniel.
Non,
téléphone,
non,
la bombe humaine.
Non.
Ah, c'est pas la bombe humaine ?
C'est pas téléphone.
Les insus.
Ouais.
Je peux prendre ce point parce que.
Non, c'est Daniel.
Il a du téléphone.
Non, j'ai un coup de téléphone. Mais laissez-moi répondre aussi.
comédie d'un côté, humaine de l'autre.
Oh là là. Ouais, très pointu, très pointu celui-là. Bravo Nagui.
Oh, je suis fatigué.
Ouais. Fatigant aussi.
Fatigué et fatigant. Qui chante ça?
C'est le début de L'île aux enfants.
Ça, normalement, c'est pour Leïla.
Morgan.
Daniel.
Louis Aubert.
Non.
Daniel.
Daniel.
Dalida.
Mais oui.
Quoi? Attends, remets le début, c'est quoi cette voix là?
Écoute.
Oui, ça c'est le refrain, mais le début. Piano?
Il t'a piqué Dalida?
Ah ouais.
Bah ouais.
Crala.
Attends, je vais entendre le début de sa voix.
Ok, je me tais, je me tais.
C'est
ah ouais, bah ouais.
Fini.
Ah, c'est fini.
Ah ouais, c'est mort.
C'est fini la comédie.
Tu reconnais même pas Dalida?
Qu'est-ce qui se passe? Là, non, là, j'ai un trou là.
On est la 8e semaine du mois de septembre et tu ne reconnais pas Dalida.
C'est ma seule compétence dans ce
Alors,
jeu.
Pour l'instant, un point pour Leïla, 5 pour Daniel. Attention, tout se joue sur le.
J'en ai pas qu'un, j'en ai deux.
Non, t'as d'accord.
Nous, on n'existe même plus.
Non, non,
moi, j'étais en train de faire une médite dans ma tête.
Vous avez rien fait. Vous avez rien fait.
Honnêtement, comédie, j'attends Marly Gaumont.
C'est le super banco.
Daniel, comédie.
Non.
Ah, j'entends pas. Mylène Farmer.
Non, ça c'est.
Dis ton nom.
Christiane de Queen.
Joli.
Oh, elle a gagné. Oh, c'est pas loin, enfin, Mylène Farmer.
C'est que ça.
Yes.
Elle a fait un drop de stylo. Ouais.
Le talent, moi je me pointe au dernier moment fait. Dans les arrêts de jeu.
Chaleur humaine, gagnée par Fanny Ruet. Merci d'accueillir Valérie Bonneton et Marc Dupin.
France Inter, la bande originale.
Une Draxler.
Avec Nagui.
Pardon, nous nous amusons avec la comédie humaine.
Ouais. Non, on voulait pas vous déranger.
On s'amuse, on s'amuse comme on peut autour de cette comédie humaine et d'Eugénie Grandet. Soyez les bienvenus. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Bonjour Marc.
Bonjour.
C'est votre troisième film
Cinéma, oui. J'en ai fait deux
pour la télé. Oui, parce qu'il y a eu la télé aussi, c'est ça.
Un pour Canal et puis un pour France Télé.
Et vous choisissez d'adapter, vous le romancier, vous choisissez d'adapter Eugénie Grandet, de l'adapter librement quand on voit les papiers qui sont sortis du style, mais comment hostile, modifié, modernisé, transformé Balzac. Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce crime de lèse-majesté, de toucher à Balzac ou carrément de dire, tiens, bah si, je m'inspirais librement et moi, le romancier, j'écris une autre histoire fortement inspiré d'Eugénie Grandet.
Bah écoutez, si on prend Eugénie Grandet telle quelle, je pense que c'est pas nécessaire de faire un film en fait.
D'accord.
Ça, non mais c'est vrai parce que pour la simple raison que pourquoi le faire parce qu'il a quand on lit un livre, ça suscite plein d'images, donc chacun se fait son film. D'ailleurs, moi, je connais plein de gens qui ont adoré des livres, qui veulent pas aller voir le film au cinéma, ouais. Parce qu'ils se disent, moi, je me suis fait mon film, et pourquoi un autre va m'imposer d'autres images, d'autres. Donc, c'est intéressant.
Même la voix de certains acteurs sur des personnages. C'est-à-dire, quand on lit un livre, on lui donne une voix, on lui donne une carrure, une stature, un physique, et puis, d'un coup, on le voit à l'image, c'est pas forcément celui que nous avions imaginé en lisant.
Ben oui, ça m'était arrivé avec La Chambre des Officiers qui avait été adaptée par Dupeyron. J'avais trouvé le film très, très intéressant, mais c'était pas du tout, évidemment, la mémoire que j'avais des personnages, et c'est normal. Et donc, si on veut s'attaquer à une œuvre comme ça, qui quand même, pas bien des côtés, est assez désuète, il faut bien le dire, par des formes de langage, il faut mettre un petit coup de jeune.
Donc la moderniser, donc la rendre presque actuelle aussi dans son sujet. Je parle surtout du féminisme.
Surtout d'aller chercher dans... Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller chercher dans le livre tout ce qu'il y avait de moderne. Et ce qui est moderne, c'est évidemment le rapport à l'argent. Cette forme de cupidité qui est absolument incroyable chez le père Grandet. Parce qu'on est au tout début du capitalisme, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est après la Révolution, c'est vraiment les premiers pas du libéralisme. Et le père Grandet symbolise vraiment cette réussite avec quand même beaucoup de magouilles, les biens des émigrés, etc.
Olivier Gourmet, qui est absolument impressionnant.
Avec Olivier. Et puis évidemment, il y a toute la question de la femme et de la condition de la femme au début du XIXe siècle, qui est assez affligeante, il faut bien le dire.
Elle a quelques activités quand même.
Une femme qui est mariée, qui est toujours mariée contre son gré.
Alors justement, Valérie Bonneton, comment vous la voyez? Parce que cette la place, en tout cas, que Marc Duguin lui a donnée dans le film, aussi bien la mère qu'à...
Je trouve que c'est
c'est moderne, mais en fait, c'est, moi, quand j'ai lu le roman à l'âge de 15 ans, c'était déjà moderne, et puis c'est ce qu'a toujours dénoncé Balzac, quoi, la condition féminine. Donc, en effet, elles sont enfermées entre les tâches ménagères et la religion, c'est un enfermement, et puis ça, c'est un enfermement, mais le patriarcat, cet homme-là, c'est, elles sont extrêmement,
ouais. Voilà. Et Sarah, ouais. Sarah Dinery n'arrange rien non plus à l'histoire.
Non, non. Et, ouais, le personnage que j'interprète, la mère, elle est quand même, elle en prend beaucoup dans ouais. la figure.
Mais justement, ce que, elle protège sa fille aussi.
Elle protège sa fille. Ce que je me dis, c'est qu'elle a dû lui insuffler
des valeurs.
Non, l'idée peut-être de cette émancipation, hein.
Oui. Ton personnage est moins soumis oui. que dans le livre.
Elle répond ouais. davantage, ouais. en effet, dans le livre. Ouais. Mais
enfin, c'est du bout des doigts.
C'est, ouais, c'est vraiment du bout des doigts. C'est vraiment... des doigts.
Mais, ce que mais dans la mesure de ce qu'elle peut faire à l'époque et dans la condition dans laquelle elle vit, en fait, c'est aussi ça. Sinon, ça aurait été complètement fou qu'elle se révolte et qu'elle vienne contredire l'autorité du père Grandet. Mais ce qui est beau aussi, c'est que Balzac, qui avait un public très féminin, pour le coup, comprenait aussi les aspirations des femmes. D'ailleurs, il fait un roman avec un nom de femme en titre, donc c'est quand même pas complètement rien. Ouais. Là, vous proposez aussi un aspect un peu plus contemporain, plus féministe. On a un personnage de Jenny Grandet qui commence à décider par elle-même que l'autorité du père n'est pas forcément la loi divine, en fait.
Oui, et puis en plus, ce que je trouvais intéressant, c'est la contradiction du père Grandet, c'est-à-dire que par sa radinerie, par cette façon qu'il a de s'approprier les êtres autant que les biens, et finalement, par sa mort, il la libère.
Ouais.
Et il la libère d'une façon qui est assez moderne. C'est-à-dire, d'un seul coup, elle a les moyens de n'être attachée à aucun homme. Mmh. Et donc, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est pour ça que j'ai modifié la fin. C'est peut-être la seule partie que j'ai vraiment modifiée carrément.
Oui, parce que dans le roman, en fait, sa destinée, elle n'est pas aussi optimiste que la fin du film. Parce que là, elle envisage de voyager dans le film, alors que dans le roman...
Et de ne pas se marier.
Et de ne pas se marier, alors que dans le roman, elle se marie.
Mais elle n'est pas si optimiste, je trouve, parce que quand même, je me dis, waouh, l'amour, là, c'est quand même assez mort. Là.
Non, mais la fin est optimiste du film, plus que le roman. Parce que tout d'un coup, on envisage une femme qui veut s'émanciper, qui veut voyager, qui veut voir autre chose, qui veut
vivre.
Qui veut vivre en fait. Alors que dans le roman.
Aujourd'hui, ce serait ça. Oui. C'est ça, en fait. Je me dis, moi, aujourd'hui, ce serait ça.
Ouais. Sauf que là, dans le film, elle ne prend pas l'avion.
Non.
C'est ça qui manque dans votre film. Elle ne prend pas l'avion. Dans le film, c'est ça
qui manque.
Juste ça.
Vous avez décidé d'adapter Eugénie Grandet ou vous avez décidé de trouver une histoire qui correspondait aux valeurs que vous vouliez porter, c'est-à-dire ce mélange entre la naissance du capitalisme, la transmission père-fille et la libération de la femme, et vous avez dit, ça correspond, je peux le trouver chez Eugénie Grandet. Autrement dit, qui de la poule et de l'œuf ?
Non, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai relu Eugénie Grandet par hasard.
Comment on fait ?
J'ai relu par hasard, je vais vous expliquer comment. J'étais en train de déménager, donc tous les cartons étaient faits, et il restait les œuvres complètes de Balzac, la comédie humaine.
Qui ne rentrait pas dans le carton.
Qui était une collection que m'avait offert mon père, qui était une assez belle collection, et donc j'attendais pour la... Et du coup, j'ai feuilleté, il n'y avait plus rien à lire, donc je me suis dit, je vais lire quelque chose ce soir quand même, et puis j'ai commencé Eugénie Grandet. Et à la fin, j'ai appelé mon associé, je lui ai dit, voilà, on va faire un film, j'écris le scénario. Et en fait, je me suis pas posé vraiment de questions, j'ai pas intellectualisé le truc.
Danny Boone ne fait pas rire, il appelait ça le déménagement.
Non, mais moi, ça m'étonne pas complètement, en fait, Marc Duguin, que vous intéressiez à Balzac, parce que dans L'échange des princesses, par exemple, votre film précédent, vous parliez aussi de la condition de la femme, du rapport à l'amour, à la dot, au mariage. Et Balzac a quand même écrit la physiologie du mariage, qui est un bouquin qu'on connaît un petit peu moins, où déjà il dénonçait, en fait, ces alliances pour de l'argent, la marchandisation des femmes. Donc tout d'un coup, vous voir vous emparer de Jenny Grandet, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un thème qui traversait aussi votre filmographie.
Ben oui, je crois aussi, parce que dans L'échange des princesses, il y avait aussi la marchandisation, comme vous dites, et je trouve ça très bien, des enfants.
Ouais.
C'est-à-dire que là, l'aristocratie allait jusqu'à se servir des enfants pour ses intérêts politiques. Et là, bon, la révolution est passée, mais la femme est toujours soit un instrument de reproduction, soit un instrument d'échange. Mmh. On la dote, ça permet d'augmenter ses propriétés. La femme est une sorte de valeur patrimoniale. Et on se dit quand même qu'on vient de loin.
Et il y a toujours la transmission. Vous parlez de votre père qui vous a offert cette collection sur Balzac. Votre roman en parle également aussi de cette transmission. Donc le rapport parent-enfant, on va dire plus généralement, vous touche.
Le rapport, en fait, moi je suis très attaché, non pas au lignage, comme on pourrait le dire chez les aristocrates, dont je
ne fais pas partie. C'est pour ça que je parle de transmission. Voilà. Bon, voilà.
Mais je trouve que... Enfin, moi, je me suis toujours intéressé à ma place dans la transmission entre les quatre générations, c'est-à-dire la génération qui me précède, mes parents, et les deux générations qui me succèdent, mes enfants et mes petits-enfants. Et je trouve que c'est un des aspects les plus importants de la vie pour moi, en tout cas. Bon, quand on n'a pas d'enfants, qu'on a décidé de pas en avoir ou qu'on a la malchance de pas en avoir, c'est différent. Mais pour moi, ça a toujours été l'idée d'être un passage, en fait, entre la génération d'avant et la génération suivante.
Et l'héritage se fait plus par la culture que par l'argent.
Bah oui, il se fait forcément par la culture, par les valeurs morales, par les valeurs intellectuelles. L'argent, ça n'a aucune importance. Non, ça va tellement vite à le dépenser, de toute façon.
Eugénie Grandet est au cinéma à partir d'aujourd'hui.
Et on a beaucoup aimé ce film.
Et on a adoré ce film.
Il y a un vrai travail sur la langue.
Valérie Bonneton, Joséphine Japy, dont on n'a pas parlé, pardon. Ouais. Oli, qui est absolument formidable. Mmh. Olivier Gourmet, surtout tout le monde est formidable dans votre film. Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, donc César Dombois, François Martouret, Nathalie Bécu, Bruno Raffaelli, Jean Chevalier, Philippe de Jeanneran, Pierre-Olivier Scotto, Anne-Marie Philippe, et tout ça avec la réalisation, l'écriture et la direction de Marc Duguin. On continue d'en parler, mais d'abord, malheureusement pour vous, tout le monde n'est pas ravi de vous accueillir ici. Il y a Morgane Cadillan qui s'essuie.
Nouvelle chronique.
J'y peux rien, tu étais en train de t'essuyer.
Concept, à toi.
Et figurez-vous que Morgane Cadillan ne vous aime pas.
Ouais, c'est mieux. Valérie Bonneton, je vous aime pas. Mais écoutez, vous le savez, ça fait trois fois que je vous le dis. À ce stade-là, c'est du machisme. De vous, de moi, l'histoire ne le dit pas. Mais Marc Duguin, c'est une première pour nous deux. Mais je vous aime pas non plus. Mais quelle vie. Vous êtes réalisateur, romancier. Vous avez été expert comptable et professeur. Vous avez même été DG d'une compagnie aérienne. Pardon, mais j'ai calculé, la seule possibilité que ce soit vrai que vous ayez fait tout ça, c'est que vous ayez 104 ans. Et je vous regarde et je me dis que si vous avez 104 ans, franchement, 104 ans, vous devez avoir le même chirurgien que Jean-Michel Jarre, parce que honnêtement, c'est vachement bien fait. Non mais personne ne fait tout ça en une seule vie. Si vous êtes peut-être que vous êtes un vampire, et si vous êtes un vampire, il n'y a pas de problème, on est super inclusif dans l'émission. Enfin, oui. Honnêtement, on vous accepte sans problème, faudra juste faire le deuil du pain à l'ail, mais ça va aller. Non mais je refuse le concept d'être face à des gens qui me donnent l'impression que je travaille pas tant que ça. Alors que moi, mon fond de commerce, c'est de dire aux gens que je peux pas venir à ta soirée parce que j'ai du taf. Après, ils écoutent mes chroniques et ils disent « Oh bah t'avais le temps de venir prendre un verre quand même ». Après l'émission, Marc, je vais vous parler d'un concept génial, vous allez voir, qui s'appelle « Faire la sieste ». Vous allez découvrir ça, ça va être trop bien, ça va tout changer pour vous. On est là, on s'allonge, on n'écrit pas de roman, on réalise pas de film d'époque, on se réveille 3h30 plus tard en sueur en se demandant si on a rêvé la candidature d'Hidalgo ou si c'est vraiment arrivé. Ah non, c'était vrai. Et comme dit souvent une amie à moi qui s'appelle Fanny, t'inquiète pas, la vie c'est jamais qu'un mauvais rêve dont la mort nous réveille. 29 septembre, ça va être un tout petit peu long. Donc Marc, comme vous n'aimez pas ne rien faire a priori, là vous vous êtes dit, prendre une semaine au Club Marmara de Djerba, adapter Balzac au cinéma, allez, tant pis pour la tchatchouka et les poils de cul dans la pistoche, va pour Eugénie Grandet. Et en plus, Balzac, c'est pas le plus simple, il parle des femmes de manière très particulière et admirative, et surtout chacun de ses livres est une occasion de dénoncer leurs conditions. Est-ce que c'est quelque chose que je savais? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit en interview et que je m'approprie? Laissons la France décider. Mais c'est fou, hein, la résonance de cette histoire avec aujourd'hui. Comme pour l'échange des princesses, j'ai travaillé avec Gilles Porte. Ouais, non. Là, j'ai mal découpé. C'est cramé que c'est vous, du coup. Bon, c'est pas grave. Les gens savent que j'ai ma culture à moi. Voilà. J'avoue, j'ai pas lu tout Balzac, mais si tu veux tout savoir sur la discographie d'Avril Lavigne, je suis ton homme. Vous avez pas adapté Avril Lavigne au cinéma, Marc? Et ben alors, on se relâche? Faites attention, hein, parce qu'on commence par ralentir un peu le rythme. On se retrouve un beau matin propriétaire d'aucune compagnie aérienne. Donc, c'est arrivé à un oncle à moi, il l'a pas vu venir. À propos de boulot, Valérie, on vous retrouve dans un rôle dramatique cette fois, vous qui étiez plutôt habituée aux comédies. Écoutez, ça vous va très bien. Là, vous jouez la mère de Génie, une femme soumise et écrasée par son mari. Et c'est vrai que la mère Grandet, on l'imagine pas crier.
Parce qu'à cette époque, si tu gueules à table, au bout, bah c'est toi qu'on bouffe. Ah. Voilà.
Merci. Et Morgane, on se retrouve du jeudi au samedi au Métropole à Paris, en tournée dans toute la France. Oui. Morgane Cadignan sur scène.
Justement, à propos du rythme, est-ce que dans le jeu, dans le film, dans l'écriture, dans le montage, il fallait aussi donner un autre rythme que celui de l'écriture de Balzac, ou en tout cas de l'histoire du roman de Ginny Grandet?
Ah bah oui, tout est histoire de rythme depuis le début. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup fait surtout, c'est que quand on est un peu écrivain soi-même, bon, évidemment pas du niveau de Balzac, mais on a tendance à mettre beaucoup de dialogue quand même. Et donc, on tartine pendant le scénario, et puis on se rend compte que, bon, on a un film de 2h50, c'est peut-être un petit peu trop. Donc on commence à réduire.
On est pas obligé de parler au cinéma aussi.
Ben, le cinéma, par essence, c'est pas les dialogues. C'est, comme disait Steve McQueen, si vous voulez que je fasse un film, amenez-moi un scénario sans dialogue. Et c'est un peu ça.
Non, moi je rêve.
Et donc j'ai réduit considérablement les dialogues.
Non, mais je dis que je rêve de jouer un rôle muet. Parce qu'il y a tout à faire, quoi. Là, le personnage de la mère Grandet, elle est assez éteinte.
C'est une taiseuse.
Ah ouais, oui, une taiseuse, mais du coup, j'imagine beaucoup de choses, une vie intérieure intense, quoi.
Et tout faire passer par le regard, ce que disait Leïla Bekti.
Son secret immense, c'est d'aimer par-dessus tout son seul enfant. Parce que c'est quand même leur seul enfant.
Oui.
Pardon. Mais Marc, vous disiez.
Pardon, Marc.
Ah, mais je sais plus ce que je disais. Oui, non, je disais que j'ai beaucoup coupé de dialogue. D'abord, quand on a fait la lecture, tous ensemble. Ensuite, j'ai encore coupé pendant le tournage, parce que je trouvais qu'il y avait des moments où c'était un peu alambiqué, un peu trop, en particulier dans ce que j'ai écrit moi, plus que Balzac. Et puis après, on est arrivé au montage, et là, au montage, j'ai encore remis une couche de coupure.
Alors, il y a la scène.
C'est plus épuré, et du coup, évidemment, tout le temps qui passe sans dialogue prend son importance visuellement. Alors, ben c'est le but du cinéma.
On parle aussi beaucoup de l'argent, on parle du féminisme ou de la place de la femme.
C'est un emplace.
En tout cas, et il y a aussi, j'ai pas, pardon, le texte précis, mais quand vous êtes sur votre lit de mort, ce que l'on entend, ce que l'on sous-entend, en tout cas, c'est cette espèce.
Là, vous êtes en train de raconter le.
Non, mais on se doute que.
Il y a 10 minutes, on a dit la fin.
C'est sorti, hein, j'ai demandé.
C'est ça.
Non, je parle du
livre. Non.
Non, mais vous parlez du rapport entre le père et la fille aussi. C'est-à-dire la manière dont il veut se l'approprier, se garder.
Il est ambigu,
sur le lit de mort, oui, c'est assez ambigu.
Il est ambigu, le père Grandet, quand même.
On peut parler aussi du procès de l'inceste, en fait. On peut y penser, en fait. C'est pas réellement ça, mais. En tout cas, là, sur son lit de mort, elle tout sort, elle dénonce tout.
Ouais, parce qu'elle est mue par un amour.
Elle est libre de parler.
Ouais. Elle est très claire et très lucide.
Parce qu'elle est véritablement mue par un sincère amour pour sa fille. Le père Grandet aussi, il aime cet enfant, mais il l'aime d'une façon qui est un peu inquiétante, parce qu'à la fois...
Il l'aime pour lui.
Il veut le garder pour lui, en réalité. Et c'est vrai qu'on peut soupçonner, alors c'est pas dans le film, hein, mais qu'il y a un rapport incestueux.
Oui, alors c'était une grande discussion avec Olivier Gourmet. Ouais. Ça a été la seule grande discussion qu'on a eue.
Oui, parce qu'il paraît que vous adressez pas la parole le reste du temps.
Non, avec Olivier, si, c'est on parle tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, on a discuté, je lui dis, qu'est-ce que tu penses, toi, maintenant que tu as le scénario, complètement que tu l'as appris, tout ça, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un peu d'inceste dans cette histoire-là? Et là, il m'a dit, oh non, moi je ne crois pas. Alors donc, j'ai dit, bon, ben, je lui dis, c'est très limite.
La Belgique n'a jamais été très claire avec ce dossier, Fanny.
Et en réalité, ça plane
dans le film.
Ça plane, mais je pense que c'est pas de l'ordre du désir.
Ouais.
C'est de l'ordre de l'appropriation.
La possession.
Tout lui appartient, la possession. Les choses sont à lui.
Il est avare de l'amour de sa fille aussi.
Voilà. Et en fait, toute la tragédie se déclenche dans le film dès le moment où il sent que sa fille est intéressée par un autre lui. Et c'est vrai que la relation incestueuse peut être perceptible par moment, mais on n'a pas voulu aller jusque-là parce que c'était pas dans le livre.
Mais on la sent,
c'est assez banal que les gens aiment
que l'amour étouffe, vous voulez dire?
Non, que les gens, que les pères ou une mère aiment leurs enfants, enfin pas pour eux, pour eux-mêmes quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Au point d'empêcher toute autre personne de l'aimer plus, vous voulez dire.
Bien sûr. Ça arrive.
Ça arrive, hein.
Ça arrive.
En tout cas, le film est très féministe. Ouais. C'est le résultat.
Ah ben j'espère quand même, oui. Formation que j'ai eue avec mon père et ma mère, mon père qui était, je pense, le plus grand féministe des années 50, et ma mère, évidemment, très féministe. Bon, moi, j'ai été élevé dans une égalité parfaite entre hommes et femmes. Donc évidemment, je milite pour que cette égalité perdure. Enfin, en tout cas, soit une réalité et non pas
avec le sentiment,
juste des vœux pieux. Quoi.
Ouais, avec le sentiment que ce ne sont pas des choses acquises. Bien au contraire, il faut redoubler de vigilance et.
Mais il ne faut pas lâcher le morceau sur le féminisme. C'est-à-dire que là, nous les hommes, on a quand même mis la planète dans un état relativement lamentable, et que s'il y a bien une alternative, je pense que c'est aux femmes de prendre le pouvoir.
Et c'est là où la scène est très très belle aussi de Jenny Grandet dans la nature, parce que c'est aussi une héroïne qui est mue par un destin, une envie d'émancipation, et c'est aussi, contrairement aux hommes qui sont assez négatifs chez Balzac et en particulier dans ce roman.
Et souvent ridicule,
elle est aussi en communion avec la nature. Il y a une scène très très belle où le père est en train de négocier des peupliers.
C'est très belle cette scène.
Et elle oublie la conversation qui se passe à côté d'elle, tellement elle est dans un rapport charnel. Et donc là aussi on peut y voir une forme de modernité. Elle a compris que ça ne se faisait qu'avec la nature et qu'il fallait être en communion, en harmonie avec elle.
Très circuit court.
Ouais.
Très
non, mais c'est vrai.
Elle
est avant-gardiste.
Et que la spiritualité est dans la nature et pas dans le dogme religieux
qui
lui est imposé.
C'est ce que vous avez rajouté ou c'était déjà présent chez
Balzac ?
Non,
j'ai rajouté. Ouais. J'ai rajouté. C'était pas vraiment présent.
C'est vrai que les discussions, ils parlent d'argent à ce moment-là.
Ouais. Ouais. Mmh. Et elle, le son d'ailleurs disparaît progressivement et elle est vraiment dans un contact très beau avec la nature.
Jenny Grandet, ça sort aujourd'hui au cinéma avec Valérie Bonneton, Joséphine Japy et Olivier Gourmet dans les rôles principaux, réalisés par Marc Duguin. Pardon ?
Les rôles principaux ? Non ?
Oui.
J'ai
dit rôle principal ?
Ouais,
sans blaguer.
Ouais,
pas. Il est long ce mois de septembre.
Ce mois de septembre, c'est la 15e semaine quand même.
Non, on est le 52 septembre, t'es sûr ?
Et tout va bien.
Je suis fatigué.
Encore 20 jours.
Merci Fanny Rué.
Coucou les zouzous.
Salut. Bonjour.
Je pense que je vais prendre une psy au père.
Une psy au père.
J'en ai besoin. Bonne idée. Je pense qu'il reste encore trop de choses à régler, notamment le fait que je parle beaucoup trop toute seule. Vraiment, très souvent, j'ai répondu à des interviews qu'on ne m'avait jamais demandé. Genre, je discute beaucoup avec moi-même et tout, et franchement, je comprends pourquoi les 8 milliards d'autres personnes ne le font pas. Je me saoule, mais de ouf. Genre des fois, je me râle dessus. Genre je pars d'une discussion avec moi en claquant la porte en marmonnant, je sens que tu me comprends jamais. Meuf, je t'entends. Et arrête de claquer des portes qui n'existent pas. Vraiment, je me saoule. Et en fait, je pense parler avec soi-même, c'est comme être en coloc avec quelqu'un qui te surprend plus et qui te reproche plein de trucs qu'il fait aussi. Comme quand quelqu'un te dit arrête de crier. Je pense que mon rêve, c'est de pouvoir me ghoster. Et genre tous les mardis soirs, je serai comme Fanny. Là, il est temps d'écrire ta chronique. C'est demain matin. Fanny, je sais que t'as vu. Putain, tu casses les couilles. Donc cette fois, pour me foutre la paix.
Elle est folle.
Je suis à vous. Non, mais on est le 52 septembre, vous avez dit. Donc des fois, pour me foutre la paix, je parle avec d'autres gens dans ma tête, genre des gens qui sont morts. Par exemple, quand j'étais ado, j'adorais les Doors et donc je parlais avec Jim Morrison parce que j'étais persuadée qu'on avait une connexion spirituelle. Et je me dis, mais les morts, ils doivent péter un câble en fait. Genre, ils sont quelque part dans l'au-delà en train de se dire, il faut qu'elle arrête de m'appeler là. Sérieux, il faut qu'elle arrête. On nous avait promis la paix, ok. Mais ils peuvent pas faire le coup du attends, je passe sous un tunnel parce qu'ils sont déjà arrivés la lumière blanche. Sauf les Didi à la limite, mais je leur parle trop. Je jure, je leur parle trop. Je vais arriver dans l'au-delà, j'aurai déjà 12 plaintes pour harcèlement, j'aurai l'air d'être dans le gouvernement. Ils vont lancer des mouvements Dead Lives Matter, ça va être chelou. Sérieux, je suis sûre, Jim Morrison, il devient zinzin, il va chez le psy de l'au-delà, genre fraude, parce que je connais pas beaucoup de psy morts. À part Maslow, mais je pense qu'il est trop occupé à parler avec les Égyptiens pour comprendre comment construire une pyramide. Et donc Jim Morrison, il va être en PLS chez Freud, en train de me dire, mais elle arrête pas de m'appeler, je sais pas quoi faire, je vais finir par faire comme Balavoine, me mettre en mode avion. Et Freud, il est comme, ouais, je pense surtout que vous voulez baiser votre mère. Et,
mais non.
Et Morrison, il est comme, oh man, people are strange. Anyway. Donc je pense que les morts, ils ont un peu tous peur que je crève, parce que là, bah, je serai sur place et ils pourront plus me fuir. Et je pense qu'ils vont tenter de se suicider, et franchement, vas-y pour faire rentrer un tabouret dans une urne. mais du coup, je me demande... Je me demande si quand je serai morte, je m'ennuierai tellement que je parlerai avec les vivants. Genre si ça se trouve, dans 60 ans, quelqu'un ferait une chronique en disant « Des fois, j'essaye de parler de seule, puis j'entends une fille qui fait des blagues sur Balavoine en mode avion. J'ai peur, monsieur !» Voilà. Là, par exemple, Fanny, tu devrais avoir une chute. Je t'avais dit que t'aurais dû t'y prendre plus tôt pour écrire. Fanny ?
Fanny Ruet, tous les mardis et mercredis à Paris, à la Scala, et en tournée aussi dans toute la France.
Eugénie Grandet, vous avez décidé que le logo, la typo de l'affiche serait comme manuscrite.
Ouais.
C'est important ça aussi pour vous qu'il y ait cette notion d'écriture?
Très honnêtement,
c'est pas vous qui l'avez décidé.
Très honnêtement, c'est pas moi qui ai décidé. On m'a proposé. J'ai dit que ça marchait très bien. Donc, je trouvais que c'était très bien. Mais c'est pas du tout mon initiative.
C'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous avez, sans mauvais jeu de mots, la main sur tout, la lumière, le montage, évidemment,
le casting, sur la lumière, sur toute la couleur du film et tout, mais on travaille. Moi, je travaille. En fait, il y a différentes façons de travailler au cinéma. On parlait hier d'une réalisatrice dont on taira le nom, mais qui improvise énormément sur le plateau. Moi, j'arrive pas à improviser. Il faut que tout soit totalement prêt. Les budgets sont tellement serrés aujourd'hui dans le cinéma que la crainte du dépassement fait que on réfléchit beaucoup en amont. Moi, dès le moment où j'ai les décors qui sont pas faciles à trouver dans un film d'époque, parce qu'aujourd'hui, entre les éoliennes, les centrales nucléaires, y a toujours un truc dans le champ, quoi. C'est assez difficile de trouver des décors vierges.
On peut servir d'une palette pour effacer.
Oui, c'est ce qu'on a fait. On avait une centrale nucléaire sur un plan, la centrale nucléaire de Chinon, et on l'a effacée. Mais elle était derrière quand on a tourné.
Et le son est important pour vous?
Le son est très important, comme l'est la musique. Et j'ai mis très peu de musique dans le film volontairement, alors que le musicien me poussait. Jérémy Ababou, qui par ailleurs est un ancien parachutiste, donc comme quoi on peut toujours se recycler dans la vie. Il avait mis, évidemment, ils sont toujours tentés. Puis c'est normal, ils proposent beaucoup de musique. Mais moi, je trouve que la musique, j'aime trop la musique pour que la musique vienne percuter un film, en fait, et la sèche du point de vue des émotions, parce qu'elle prend tout vers elle. Moi, je suis tellement sensible à la musique que très souvent...
Elle souligne généralement.
Alors, elle souligne, mais on n'a pas besoin de souligner. Je pense que le spectateur est suffisamment intelligent pour avoir compris qu'on faisait passer une émotion si on lui remet derrière des cors, des trompettes, et il y a un côté quand même au cas où, quoi. Et moi, je préfère éviter ça, donc je mets assez peu de musique.
Ça marche extrêmement bien. C'est vrai qu'il faut du courage pour ne pas mettre du tout de musique.
C'est suffisamment rare pour le souligner.
Ou pas de budget.
Ouais, mais après, Terrence Malick, par exemple, fait des films. La musique est à fond pendant tout le film, et ça marche.
Ouais.
Mais c'est un parti pris, quoi.
Je ne sais plus quel réalisateur nous avait été venu dans la BO, justement, nous avait dit « Je ne veux pas de musique dans mon film, ça va nous revenir ». Bon, c'est pas grave. La musique, justement, dans vos vies, cette fois-ci, et pas dans la musique. Valérie Bonneton, vous écoutiez Neil Young dans la fin des années 90. Vous êtes toujours accompagné?
C'est exact, j'adore. C'est vraiment, je ne m'en lasse jamais.
Et la musique est très présente dans votre vie? Vous l'écoutez genre tous les matins, vous mettez la musique en vous levant?
Non, pas toujours, mais j'ai des crises un peu, comme tout. Et voilà, j'arrête pas d'écouter, mais j'écoute très très souvent en fait la musique. Et Neil Young, je ne m'en lasse jamais.
C'est culte en
jamais.
Plus.
Ouais. Dans la deuxième partie des années 90, et Valérie, vous faites votre première apparition au cinéma dans Love, etc. de Marion Vernoux.
C'est vrai.
Et puis s'enchaîne un certain nombre de rôles, de petits rôles, toujours avec une dimension comique. Vous êtes un être comique au quotidien?
Non, pas du tout, voyons. Non, pas du tout, ça dépend. Parfois oui, parfois non. Enfin, comme tout le monde, je sais pas.
Vous aimez faire rire?
J'adore faire rire. Ouais. Je peux pas m'en empêcher. Enfin, je sais pas, ça a toujours été comme ça au conservatoire, mais j'aime. Pour moi, c'est le drame et la comédie, c'est la même chose.
Ouais.
Voilà, c'est la même chose.
Et donc, ça se matérialise comment dans la vie tous les jours? Faire rire, c'est faire rire chaque personne.
Mais je me fais rire moi-même. Enfin, vous savez, comme tout le monde. Voilà, je me parle, tout ça, je me fais des blagues, je me fais des trucs.
Ouais.
Et comme Fanny un petit peu.
Est-ce que le rire, l'humour, c'est une manière aussi de défendre des cause, d'avoir des valeurs. Je sais qu'on a eu quelques discussions tous les deux et vous êtes engagés.
Ouais, mais c'est une pudeur aussi, je crois.
Une protection.
Oui, c'est une pudeur, c'est une protection, c'est une forme de générosité, c'est une protection, c'est sûr.
Marc Dugain, vous écoutiez dans la fin des années 90 les Beatles.
Ah ouais, moi aussi.
Alors, on peut écouter les Beatles tous les jours. Hein. Qu'est-ce que c'est bien? De la même manière que vos parents vous ont transmis les valeurs dont vous parliez tout à l'heure et des collections de livres, la culture musicale vient aussi de votre papa ?
Non, mais mes parents, ils écoutaient de la musique classique. Et évidemment, moi, j'en ai écouté aussi. Mais après, je me souviens de ce 33 tours, le jour où je l'ai acheté avec ma mère aux Nouvelles Galeries à Grenoble. Je m'en souviens comme c'était hier, alors que j'ai plein de trous de mémoire pour plein de choses. Mais là, je m'en souviens comme c'était hier.
Et vous choisissez les Beatles?
Ma mère me disait non, je dis si, je crois que c'est en 67 hein, qu'il est sorti celui-là.
Pourquoi vous le prenez? Parce qu'on vous a dit de l'écouter?
Parce que tous mes potes.
Vos potes.
Ils me parlent de. On parle des Beatles, on parle de. Et chaque fois que j'écoute ça, j'ai l'impression de retomber en enfance. Ouais. C'est merveilleux.
Et vous, à cette époque, vous publiez La Chambre des Officiers. Moi, je l'avais lu quand j'étais fin collège, début lycée, je crois.
Je suis si vieux que ça.
Non.
Elle est très jeune.
Je suis très jeune, c'est ça. Inspiré de la vie de votre grand-père qui était rentré défiguré des tranchées 14-18. On parlait de l'humour au quotidien. Et ça faisait aussi partie de votre quotidien, puisqu'enfant, vous passiez beaucoup de temps avec votre grand-père qui,
Eugène.
Malgré les séquelles de cette guerre, continuait à essayer de vous faire rire et sourire, malgré ce visage.
Je leur dois énormément parce que, si vous voulez, les gens qui ont été comme ça, tout près de la mort, et qui ont vécu la souffrance, mais pendant des années, hein, mon grand-père a été opéré, je crois, une quinzaine de fois pendant 5-6 ans. Ces gens-là ont un détachement vis-à-vis de l'existence, que quand ils transmettent ça à un môme, je trouve ça miraculeux, en fait. Et il y avait ça, c'est-à-dire tout c'était comme ça. Tous étaient passés près de la mort, tous étaient défigurés, ils avaient le front enfoncé, et donc c'était des leçons de survie et des leçons de vie qui étaient exceptionnelles. En même temps, c'est assez quand même déséquilibrant pour un enfant, au sens où on est à l'os, quoi. C'est-à-dire que après, c'est très difficile de se construire dans des choses qui sont finalement futiles ou parce qu'on a commencé quand même dans une certaine gravité. Et donc j'ai eu un peu de mal.
Justement, c'est pas un détachement, c'est plutôt on s'accroche à la vie, on se bat et on la trouve encore plus belle et plus forte.
Oui, mais moi j'ai eu du mal justement. Mais j'y suis arrivé, hein. Qu'il n'y ait pas de quiproquo là-dessus.
Mais on est moins léger que les autres copains de l'époque.
Mais on est moins léger que les autres copains. Il y a un truc. Bon, et mon père étant aussi handicapé, donc il y avait quand même quelque chose. Qui était un peu dur à faire décoller l'avion, quoi.
Et puis visuellement, avec les gueules cassées, on voit vraiment qu'on peut passer à quelques centimètres de la mort, puisqu'il manque ou une mâchoire ou.
Quand il tirait la langue, il a tiré par le nez, en fait.
Oui, mon grand-père tirait la langue par le nez pour me faire rire quand j'étais jeune. C'était quand même assez particulier. Mais c'était des gens extraordinaires et qui étaient très très drôles. Et qui se ménageait pas, c'est-à-dire qu'ils fumaient, ils buvaient. Maintenant, on leur dirait la cigarette c'est mauvais. Ils clopaient toute la journée. Il y avait nos limites.
Ils profitaient.
Et ça, c'était quand même, c'est quand même assez fort de vivre ça dans l'enfance.
En 2005, Valérie Bonneton, vous écoutiez Nina Simone. La musique vous fait rêver, vous fait danser, vous fait chalouper, vous fait quoi?
La musique me fait du bien.
Et Nina
la
Simone,
musique, c'est...
Elle a une voix déchirante, Nina Simone.
Comment?
Nina Simone a une voix déchirante.
Ouais, à vrai dire, on l'écoute tellement souvent, j'en ai un peu marre.
C'est vrai. C'est vous qui l'avez choisi.
Ouais, c'est vrai, je l'ai choisi, mais je l'ai tellement écouté, tellement...
Tu la lâches.
Mais non, je la lâche pas. Mais on l'entend tellement souvent. Et alors?
Il y a un morceau, j'ai pas le nom en tête, j'ai plus de mémoire, mais moi je me le repasse.
Feeling good?
À l'infini.
Non, mais c'est toujours.
Très long, un morceau très très long là, qu'elle joue.
Je crois que c'est Feeling good.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ah ouais.
Non, tu vas pas lâcher Nina Simone.
Non, je la lâcherai pas, mais c'est vrai que bon, voilà. parfois.
On est en 2005, Valérie, et c'est une période pas forcément simple d'un point de vue professionnel. Vous dites que vous commenciez à avoir la tentation d'arrêter de jouer.
Oui.
Que c'était finalement ce rêve d'enfant devenait peut-être un cauchemar d'adulte.
Ce rêve d'enfant devenait un cauchemar
D'être comédienne.
Ah oui, non, pas un cauchemar, mais en tout cas, moi, je savais, j'ai envie d'être heureuse, donc je m'étais dit, si jamais c'est pas pour moi, je ferai autre chose. Enfin ouais. Voilà, je veux pas me.
Vous tourniez un peu moins à ce moment-là.
Je faisais beaucoup de petits rôles, ouais. Etc. Donc j'avais des super critiques, etc. Mais voilà, pour s'imposer, il faut du temps. Et tant mieux.
Et vous auriez fait
tant
quoi
mieux.
s'il avait fallu arrêter.
Je sais pas, j'avais envie de. Je faisais des vêtements pour mon petit garçon, donc j'avais envie de faire ça. Ouais. Voilà.
Créatrice de mode.
De créer des vêtements. Oui, j'avais envie.
Marc Duguin, attention, accrochez-vous, vous écoutiez. America is wunderbar.
J'adore.
Et pourquoi vous écoutiez cette musique?
J'écoutais ça en boucle quand j'écrivais la malédiction d'Edgar.
Pourquoi?
Car archi connu, Rammstein, c'est une référence, c'est culte. Bah ouais.
Et
groupe de rock incontournable.
Et je trouve que c'est assez drôle sur l'Amérique, en fait. On est tous américains, Coca-Cola, machin. C'était. Et j'aime toujours, hein. J'écoute toujours. Ça n'a pas émoussé mon appétit pour Rammstein.
Et la malédiction d'Edgar, c'est le portrait de Hoover, le patron du FBI, dans une période bien précise, notamment l'élection de John Kennedy à l'assassinat de son frère Robert. Vous avez lu pendant des années sur ce sujet, vous êtes énormément documenté pour ensuite pouvoir...
Je crois
pouvoir,
que j'ai lu un truc comme 12 000 pages.
Ah ouais.
Punaise.
Oui.
J'ai des documents du FBI que j'ai réussi à me faire passer par des copains. J'ai beaucoup beaucoup travaillé. Je me suis enfermé en fait dans la maison de mes parents. J'étais au milieu de la doc comme ça. Et puis à un moment, c'était bon, j'ai démarré. Mais ça a été le de tous mes livres celui qui m'a demandé le plus de travail en amont.
Et pourquoi cette période-là en particulier?
Parce que les Kennedy, il y a un truc, il y a un lien. Mon père était très en faveur des Kennedy, parce que c'était la nouvelle génération d'après-guerre. Mmh. Et,
la nouvelle frontière.
Et donc, la nouvelle frontière. Et moi, j'ai été bercé dans l'amour des Kennedy, en fait. Et leur assassinat a toujours été une grande énigme. Et donc, quand j'étais à Sciences Po, je travaillais déjà sur Kennedy. Enfin, j'ai toujours suivi l'actualité. J'ai toujours fait partie des gens qui pensent que Lee Harvey Oswald n'a jamais été évidemment le tueur de John Kennedy, mais
c'est qui
mais ça m'a toujours fasciné. Voilà.
On m'a dit que c'était Pierre Niney. C'est qui a tué Kennedy?
Moi, j'ai entendu parler de Julien Clerc.
Peut-être Sarti. Sarti, un Corse qui n'avait qu'un œil, donc il ajustait beaucoup plus vite les tirs.
C'est
il était derrière
c'est
la balustrade et il a été payé. Non, c'était un Corse qui avait déjà travaillé pour l'OS et qui. C'est lui apparemment qui aurait donné le coup de feu final.
Et payé par qui?
Il a été payé par le conglomérat de comploteurs qui était autour, c'est-à-dire.
Le syndicat des camionneurs,
les Cubains, le syndicat des camionneurs, enfin, il y a. Non, si vous me lancez là-dessus, on en a jusqu'à ce soir.
Ouais. On n'a pas peur, monsieur.
C'est la passion de ma vie. Attention.
D'accord.
Cette petite lumière rouge sur votre front, Nagui, vous
revenez. Revenons, c'est ça.
Non, mais ça pourrait valoir un film ou pas? Mais
j'en ai fait un. Pour Canal, j'ai fait La malédiction d'Edgar avec Brian Cox, l'acteur de Succession, là, qui est un acteur extraordinaire. Et donc on avait fait ça, mais c'était un film pour le groupe Canal.
On revient à Nina Simone. Alors on hésite dans l'équipe entre deux titres parmi ceux que vous aimez, Marc Duguin, soit Feeling Good. High, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Ou Cinnamon. C'est celui-là. Il dure 10 minutes.
Voilà, ça,
bien joué, Alicia. Nous recevons et nous allons parler de l'un des sujets de votre film Jenny Grandet, du roman de Balzac, l'argent et surtout l'avarice, avec Marie-Claude François Laugier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, auteur de Comment régler ses comptes avec l'argent et également de L'argent dans le couple et la famille aux éditions Payot. Et les rapports à l'argent, alors c'est de dire que l'avarice est un vilain défaut. D'abord, c'est un vilain défaut.
Oui, ça peut être un péché capital. Ça fait fuir tout le monde.
C'est ça. Le rapport à l'argent, celui qui a de l'argent et qui ne veut pas le dilapider, qui le garde, qui le cache. C'est parce qu'il a peur de manquer ou c'est parce qu'il ne veut pas être généreux avec les autres?
À l'origine, il a certainement peur de manquer. Il a peur de son vide. De son vide intérieur, de pensée. Et à ce moment-là, l'avare, vraiment, ce qui est une pathologie, organise toutes ses journées autour de comment gagner de l'argent, comment faire fructifier, comment en avoir plus, comment l'accumuler. C'est le père Grandet. C'est le père Grandet, lui, il ne passe son temps à élaborer des stratagèmes, y compris...
Il ment.
Il cache son argent. Voilà, il est obsédé par l'argent, comme les gens sont. Il est accro à l'argent qui devient une drogue. Et ça, je crois que c'est la caractéristique de l'avare.
Oui, mais alors le paradoxe, pour reprendre votre image de la drogue, ça se consomme. Donc, gagner de l'argent pour ne pas s'en servir, pour ne pas le consommer, pour ne pas en profiter, c'est paradoxal.
Le stocker
ne sert à rien.
Mais réussir à garder, c'est déjà un choix.
Tu ne veux pas comprendre ça.
Il fait tout pour le garder et pour en avoir plus et surtout pour ne pas le partager. Bon, la drogue, c'est le même problème. Quand je fais le parallèle avec la drogue, c'est qu'il organise tout son temps et il mobilise toutes ses pensées pour vendre, alors récupérer sur des ventes de vin quelque chose qui pourrait compenser les dettes de Charles. Il fait tout pour garder l'argent.
Non mais il y a deux choses, pardon. Il fait tout pour en gagner, c'est-à-dire oui revendre, faire des marges, des bénéfices sur la vente du vin, c'est une chose. Tout faire pour gagner, c'est une chose, mais ne pas le dépenser.
Ah mais parce qu'il veut
quel intérêt de le gagner pour pas le dépenser.
Alors c'est l'amour de la possession. Et je crois que là on rejoint dans le film en particulier et chez Balzac la possession, le désir de possession et de pouvoir qu'il a sur sa fille. Et si vous voulez, l'argent lui donne à la fois le pouvoir des très riches sur les autres qui n'ont pas d'argent, et l'illusion que l'argent lui donnera le pouvoir. Mais vous pouvez retrouver ça chez tous les avares et les accumulateurs de la Terre.
Et c'est encore plus drôle d'imaginer parce que Balzac, c'était un panier percé, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas garder...
Balzac, il était poursuivi par ses créanciers et il avait une double entrée et une double sortie dans sa maison, je crois que c'est la rue du Ranelagh à côté.
Il passait son temps à acheter des choses, il n'avait pas l'argent.
Lui, il était plutôt prodigue, il était dandy, il était dans l'apparence, donc il avait des dettes partout et de temps en temps, il écrivait à la ligne.
Et c'est pour ça qu'on a des super romans aujourd'hui.
Et on a ces super romans où l'argent est toujours présent.
Alors, quand vous dites que l'avarice est une maladie, est-ce que c'est une maladie qui se soigne?
Alors, c'est une pathologie. Je n'ai jamais vu des avares en consultation. Parce qu'ils ne se remettent pas en
cours. Ça coûte trop cher de venir encore.
C'est vous qui êtes trop cher.
Oui.
Est-ce que ça a un rapport avec les sentiments?
C'est eux qui ne veulent pas dépenser. Ils ne veulent pas donner. Ils ne veulent pas partager. Enfin, ils ne veulent pas. Ils veulent posséder sa famille par l'argent.
Est-ce que l'avarice est liée aussi au problème de. Enfin, au sentiment de ne pas pouvoir donner, ne pas pouvoir.
Être amoureux.
Mais n'est pas lié. Il précède le sentiment de ne pas pouvoir donner. Mais à l'origine, il veut accumuler, garder pour lui et ne surtout pas donner.
Est-ce que lorsqu'on est avare, donc et qu'on ne veut pas donner de l'argent, est-ce qu'on ne veut pas non plus donner de sentiments, exprimer cet amour?
C'est Harpagon. Molière a tout dit au XVIIe.
Ah oui, c'est ça.
Harpagon ne veut pas donner. Lui, il ne veut pas donner, il veut garder et au détriment, et ça c'est vraiment pathologique chez les avares, au détriment du bien-être de sa famille. Il y a quelque chose qui m'a frappée quand il dans le film, quand il dit, on peut pas faire, Ninon dit, on ne peut pas faire de bouillon parce qu'on n'a pas de viande. Et il dit, on va prendre des corbeaux. Vous savez, c'est une expression, être nourri par les corbeaux, qui vient de la guerre de 14, j'y pensais avec votre grand-père. Mmh. Être nourri par les corbeaux, c'est les gens qui ne pouvaient pas se nourrir, parce que justement, les corbeaux, c'est le symbole de la mort.
De la mort,
voilà. Mmh. Et ça, moi, ça m'a beaucoup frappé. Et il y a une deuxième chose qui m'a frappé dans les phrases du père Grandet, qui est vraiment caractéristique de l'avare, qui organise tout autour de « je garde, je garde », c'est « si on ne meurt pas pour l'argent, pourquoi peut-on mourir ?» mmh. C'est quand même aussi une obsession contre la mort. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai écrit dans un livre que les personnes qui avancent en âge sont souvent préoccupées de l'accumulation, de cacher sous les arbres, mmh. de mettre dans des cassettes, par, ou de mettre sur des comptes virtuels, pour être protégées symboliquement contre la mort. Mmh. C'est pas la vie, hein, l'avarice. L'avarice, c'est le contraire. On se rétracte, on vit sur soi, avec sa cassette, avec ses comptes, et on ne fait rien d'autre. C'est là où je fais une assimilation à la, enfin, un rapprochement avec la drogue.
Et l'avarice.
Et je trouve ça très triste.
Et l'avarice du père Grandet conduit aussi à la mort. À la mort, au sacrifice
alors,
des
siens. Alors, à la mort de la maman. Et la maman dit quelque chose de très juste. Vous dites, comment allez-vous faire pour vivre ensemble? Et c'est là où, bon, effectivement, il y a chez Grandet un désir de possession de sa fille. Je parle pas jusqu'à l'inceste, ça, on n'en parle pas dans le livre, et c'était pas un propos au 19e, en tout cas, on n'en parlait pas. Mais comment allez-vous faire pour vivre ensemble? Eh bien, et 4 ans après, ou 5 hivers après, le père Grandet, qui n'a toujours pas guéri de l'avarice, bien sûr, parce qu'on n'en guérit pas, il lui dit, mais on est bien ensemble. On peut vivre très bien ensemble. Et elle est lisse, elle se fige et elle dit certainement. Mais elle s'émancipe. Alors, c'est quelque chose d'intéressant dans le roman.
Le certainement est très bien joué, d'ailleurs. Ah, tout mettre en un mot, hein, oui, formidable.
Et elle s'émancipe de ce pouvoir démoniaque de son père en devenant riche. Finalement, la richesse qu'elle hérite lui donne la liberté. C'est assez extraordinaire comme dénouement dans le roman. Et elle fait preuve de sa générosité en le donnant, enfin, en donnant une grande partie à Charles.
Une partie. Comment régler ses comptes avec l'argent? C'est ce que vous avez écrit aux éditions Payot. Et l'argent dans le couple et la famille. Merci Marie-Claude François-Logis d'être venue.
Merci. Merci à vous.
Quel héros pour Daniel Morin aujourd'hui, le héros du jour, Daniel.
Alors aujourd'hui, le héros du jour aurait très bien pu être Valérie Bonneton, notre invitée. Oui. Pourquoi, me demanderez-vous, qu'a-t-elle fait de si exceptionnel pour mériter cette éminente distinction qu'est de recevoir mon label héros du jour? Eh bien, rien. Rien qui n'ait fait les gros titres. En tout cas, il se trouve simplement que j'adore Valérie Bonneton. Souriante, pimpante, pétillante, elle me met en joie. Et sa performance dans Le Génie Grandet, où là encore elle illumine l'écran de son grand sens de la déconne, du tout pour la blague, me conforte dans le bien fondé de la passion que j'ai pour cette comédienne, cet artiste, cette femme. Valérie. Bref, je m'emballe. Non, aujourd'hui, mon héros du jour est Manny Pacquiao, candidat à la présidentielle de son pays, les Philippines. Pourquoi est-ce mon héros? Parce que Manny, c'est pour moi le futur du parfait candidat. A-t-il un programme? Non. Et on s'en fout. Il est boxeur. Plusieurs fois champion du monde, 72 combats professionnels. Et je vous garantis qu'il a pété de la mâchoire, explosé de la narine, éclaté de l'arcade sourcilière. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque dans le débat politique. Quand on voit Zemmour et Mélenchon qui se chamaillent pendant un débat, qui haussent la voix ou au pire qui se pointent du doigt en disant « Oh là là, mais quelle violence !» Mais on reste sur notre faim. Aujourd'hui, la société est violente. On veut du fight. Quand Zemmour dit à Mélenchon « Mais vous, vous avez maintes fois retourné votre veste, vous êtes un menteur !» Au lieu de répondre « C'est faux, je vous interdis de dire ça !» Si Mélenchon se levait, qu'il se mette face à Zemmour, qu'il lui dise « Moi ?» Un menteur, et qui lui met une droite dans la face, mais non seulement la chaîne fait une audience de malade, mais le gars passe de 12 à 80% d'intention de vote. Autre exemple, Bertrand Pécresse pour les Républicains. Ça n'en finit pas, ça traîne. Tu règles ça au bras de fer et c'est fait. En 5 minutes, t'as ton candidat officiel. Aux Philippines, Manny Pacquiao va déglinguer physiquement tous ses opposants, et c'est ça dont on a besoin ici en France, un cogneur. La démocratie, diplomatie, le débat ont fait leur temps. Place à la baston, à cette promesse non tenue, place au mandal bien mise. Voilà pourquoi, mon cher Nagui, Manny Pacquiao est mon héros du jour.
Merci, Daniel Morin. Bonjour, Paul Guitassureau.
Bonjour, Nagui.
De quoi parles-tu aujourd'hui?
Je vais parler de Philippe Pétain, hein, qui, figurez-vous, fait une belle percée dans la campagne présidentielle 2022. Il n'est pas encore candidat, mais ça serait tardé.
Bonjour, Morin, et nos invités Valérie Bonneton et Marc Dugain.
Nous parlons d'Eugénie Grandet et on a même eu Marie-Claude, notre psychologue et psychanalyste, qui en a extrêmement bien parlé en prenant comme ça des phrases. Et j'ai senti, Marc Duhain, que ça vous a, son analyse presque psychanalytique vous a plu.
Oui, ça m'a beaucoup intéressé. Moi, je pensais que c'était une névrose obsessionnelle, mais elle me dit que non, en fait, que c'est
l'avarice.
C'est une pathologie. Que, comme elle est plus calée que moi, je pense qu'elle a raison.
On peut naître avare. On peut.
Non, le sujet. Le sujet du film n'est pas tant sur l'argent ou l'avarice, mais plutôt sur la transmission, sur le rapport entre le père et sa fille. Et la condition humaine, c'est-à-dire la condition féminine, la place de la femme. Votre film est plus féministe que ce que Honoré de Balzac avait écrit.
C'est différent parce que être féministe à l'époque de Balzac, quelquefois ça se retourne contre lui quand on lit le texte, parce qu'il y a un truc de déification de la femme, mais qui se retourne contre elle, parce que du coup il en fait une sorte d'objet. Il parle d'ange quand la femme est un ange, et du coup c'est un peu
contre-productif.
Ouais. C'est contre-productif. Ouais. Voilà. Et moi j'ai été un peu plus à la racine des choses.
Et plus moderne,
moderne, mais tout en respectant quand même l'époque. Ça, je voulais pas faire un film anachronique non plus. Donc
ce qui est génial, c'est que le personnage de Génie, il était vraiment fait pour suivre le chemin de la mère, quoi. Elle était vraiment, enfin, résignée. On voit, c'est à un moment donné, je sais plus, on la voit. Enfin, c'est comme si c'était comme ça, quoi. Elle acceptait, elle aussi deviendra comme la mère. Et puis d'un seul coup, voilà, ce cousin qui débarque et c'est. C'est une révolution.
Mais on
c'est
sent
une
quand
révolution,
même,
c'est une émancipation.
On sent que la littérature joue un rôle, puisque les premiers plans où on voit Génie, enfin pas les tout premiers, mais elle est en train de lire. Et elle lit tard le soir, parce qu'elle rêve de partir, de s'évader. Et on voit aussi le pouvoir de la littérature sur cette jeune fille qui ne veut pas, avec tout l'amour qu'elle porte à sa mère, devenir cette femme-là. Donc il y a déjà, il y a aussi une forme de dimension un peu performative de la littérature qui vous fait accéder
à... C'est sa mère qui lui a permis, parce que le père ne veut pas. Mais c'est vrai que c'est l'ouverture, la lecture.
Il y a une question de rang social aussi, c'est-à-dire même vis-à-vis de la dame qui travaille à la maison, elle a des rapports avec elle et une manière de lui parler qui n'a rien à voir avec la violence
du père.
Du père Grandet.
Oui, c'est-à-dire que le père...
Je vous dérange, Marc.
Marc est en train de réfléchir à quelque chose.
Non, mais le père, c'est vrai que c'est l'enfermement, quoi. Enfin, tout est fait pour... Il faut absolument qu'il n'y ait aucune ouverture. Et la religion, il est très content qu'elles aillent à l'église.
C'est un des trucs que je trouve le plus dément, c'est que ce père Grandet, qui a été révolutionnaire, qui a défroqué les curés, qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à rien, se sert de la religion pour asservir les femmes de sa maison. Ça, c'est déjà extraordinaire. Et
il n'a pas été le seul.
Et ce qui a été... Non, ça n'a pas été le seul. Je veux dire, la religion comme instrument de pouvoir, on peut en faire des émissions
encore aujourd'hui, dans d'autres pays. Oui.
Plus que jamais. Mais il y a quelque chose qui était intéressant à travailler, c'était justement l'ennui de Génie Grandet dans le film. Et la difficulté quand on fait passer l'ennui dans un film, c'est de pas le faire passer au spectateur.
Non, parce que t'es là, rien à craindre. Non, c'est une réussite. Ce film, Génie Grandet, c'est aujourd'hui au cinéma avec dans les rôles principaux. Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, César Dombois, tout cela devant la caméra de Marc Duguin. Voici Tanguy Pastureau.
Je ne sais pas si en studio il y a des fans de Pétain.
Si.
Non, ici on est plutôt Messi, Vianney, Camero, je comprends, c'est mieux.
Oui.
Mais force est de constater que Pétain fait son petit comeback. Alors un titre posthume bien sûr aujourd'hui, il aurait 165 ans, personne ne vit aussi vieux. Même Drucker, s'il se nourrit que d'algues japonaises fourrées à la DHEA, risque de ne pas tenir jusqu'à 165 ans. Tenez, hier j'étais sur Twitter, je tapais des mots-clés comme littérature ou philosophie, il n'y avait rien, donc je me suis résolu à taper Big Boobs. Là, j'ai trouvé du contenu, des dames fortement handicapées par une hypertrophie situées aux deux tiers supérieurs du corps, témoignaient de la dureté de leur quotidien par le biais de phrases comme « Coucou les coquinous », pouvez vous abonner à mon compte OnlyFans, 19 euros par mois. Hein, ça ressemble fort à un appel au secours. J'ai lu Psychologie Magazine 3 fois, je sais détecter les gens qui sont dans la détresse. Donc j'étais sur Twitter, chaud comme un panini 3 fromages, quand à gauche des tweets, dans la barre « Tendance », qui met en exergue les mots les plus tapés par les internautes, je vis écrit « Tendance ». Pétain. Premier réflexe, je me dis, ça doit être une tendance de la presse féminine. Après le Sarouel et le retour de l'espadrille, les femmes doivent s'habiller en surplus militaire en se laissant pousser la moustache. Hein, quand vous êtes gay et persuadé d'être hétérosexuel, côtoyer des dames comme ça permet de vivre sa vie sans trop se poser de questions. On dit à sa compagne, ah, Jocelyne, t'as une belle barbe, allez, maloute, dating tous les deux, je t'emmène chez Bricomarché au rayon des meuleuses. Puis, en lisant les tweets, j'ai réalisé qu'en fait, en 2021, on en était encore à discuter de la réhabilitation éventuelle de Pétain. Oui, Philippe Pétain, qu'Hitler appelait Philou, le monsieur qui a serré la main d'Adolphe à Montoir dans le Loir-et-Cher, parce qu'il n'y avait pas le Covid, hein, sinon il l'aurait checké en lui disant heureusement qu'on se fait plus la bise parce qu'ici c'est quatre, parce que la collaboration était totale. Pétain ayant été jugé en 45, emprisonné jusqu'en 51, date de sa mort, 70 piges plus tard, on pourrait dire voilà, dossier terminé, on va de l'avant. Hein, je rappelle quand même qu'en 2024, on a les JO et que pour l'instant, on a construit un chalet pour la vente des croustillons. Moi, j'ai regardé les 7 saisons de Cold Case à faire classer, l'épisode où Lily Rush dit tiens, et si Pétain était finalement une belle personne, allez hop, on rouvre l'enquête, n'existe pas. Et pourtant, régulièrement, Pétain revient. En 2018, c'était Emmanuel Macron qui avait créé la polémique. Hein, bon, il sortait de son stage d'observation, il était maladroit. Il avait déclaré le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, un grand soldat, même s'il a conduit plus tard des choix funestes. Alors, ok, mais enfin, si on prend dans le CV des gens uniquement la période qui nous arrange, on n'est pas sorti. Moi, si je tue quelqu'un, je pense qu'on se foutra de savoir qu'avant, j'ai donné 5 fois au Téléthon. Il n'y a que vous, Nagui, qui dirait « Ah, quand même, ça, c'est chouette. » Il est des actes qui annulent ce que vous avez fait avant. Prenez le rappeur Jul. S'il se fait produire un album sublime par Yvan Cassar, avec des cordes, du piano et un duo déchirant avec Biolay sur le thème des amours éteintes, on pourra s'appuyer sur ses 54 albums précédents pour lui dire « Ah non !» Pas de pardon. Hein, Macron, d'ailleurs, en 2018, parle du maréchal Pétain, alors qu'on lui a retiré son titre en 45. Donc, il n'existe plus. Le maréchal Pétain, c'est un personnage qui a disparu comme Grokwik ou Nairobi dans la Casa des Papels. Et là, c'est Éric Zemmour qui remet le couvert. D'ailleurs, il sabote sa campagne, parce que j'imagine que 90% des Français ont autre chose à faire que réhabiliter Pétain, comme faire cuire des poireaux ou tenter de toucher son coude avec sa langue. En fait, tout est plus important que réhabiliter Pétain. Zemmour a comme conseillère une jeune dame de 28 ans. J'imagine qu'entre deux bains de mer, elle doit l'aiguiller sur des sujets de société plus modernes. Hein. Mais non, depuis des années, il est là-dessus. En 2014, dans son livre Le Suicide français, il écrivait que 95% des juifs français avaient été sauvés par Pétain. Charles Pasquale, monsieur avec l'accent de Fernandel et le quotidien d'Al Capone, qui fut résistant dans un groupe intitulé Le Club des 22, avait alors dit « Si Zemmour avait tenu ce genre de propos devant nous, je ne sais pas dans quel état il serait ressorti. » Parce que cette génération de gens avait vécu la collaboration, donc impossible de la leur faire à l'envers. Mais aujourd'hui, à la tête de la droite, vous avez Christian Jacob, quoi, dont on a l'impression que la seule fois il a réfléchi, c'était lors d'une question de culture G en regardant les 12 coups de midi. Lui, il dit rien de méchant sur Zemmour, parce qu'il pense que si l'autre ne se présente pas, il va récupérer ses voix. Donc il dit, est-ce qu'il est d'extrême droite? Bon, je sais pas, et d'ailleurs, qui est-ce? Et il est plus innocent que Bambi avant que Pampan le lapin lui révèle qu'il avait 160 frères et sœurs, parce que ses darons, ça donnait au sexe extrême. Bref, Éric Zemmour a une théorie selon laquelle Pétain aurait protégé les juifs français, il s'appuie sur des ouvrages. Le souci étant qu'on trouve toujours un livre pour appuyer le dernier des délires auxquels on croit. Vous tapez sur Amazon Alien Pyramide, il y a 90 bouquins vous disant que Toutankhamon était un extraterrestre. Les scarabées gravés sur les murs seraient des soucoupes et ils auraient construit les pyramides par télépathie tout en assemblant dans leur vaisseau Ariel Dombal. Et Zemmour dit, on essaie de culpabiliser le peuple français en permanence. Ben oui, mais on a nos petits torts et au contraire c'est courageux de reconnaître qu'on a mal fait les choses. À titre personnel, si un jour j'avais raté une chronique, je serais le premier à le dire. Bref, il y a la crise climatique, les inégalités et là on est à se demander que penser de Philippe Pétain. Voilà, alors moi bêtement, j'en pense ce qu'en pensait la justice en 45 plutôt que ce qu'en pensaient les gens en général en 40 quand il s'est présenté comme dernier recours face aux nazis, voilà. Maintenant, j'imagine qu'un candidat va défendre Louis XVI, un humaniste, un type comme ça, hein. Et ensuite, enfin, on parlera peut-être du futur.
Merci. Tanguy Passiot, et nous parlons de The Artist, ça sera même pas du tout la culture d'abord, ouais. Mais évidemment, mais je suis bête, mais évidemment.
On va parler littérature, évidemment. Enfin librairie surtout. C'est un carton en ce moment en librairie. Qu'est-ce qui se vend très très bien d'après vous?
Zemmour.
Absolument. La France n'a pas dit son dernier mot d'Éric Zemmour. Et pourtant,
devant Musso
je crois que c'est un pas forcément devant, mais pas très très loin.
Le même départ, en tout
cas. Ouais. Et alors pourtant, la question va venir parce que c'était pas la véritable question. À la librairie, au temps des livres à Sully-sur-Loire dans le Loiret, on peut se réjouir des ventes du livre d'Éric Zemmour. Pourquoi d'après
Reverse, c'est une association pour les migrants.
Absolument. Je tiens à saluer Aurélie Bouhours de la librairie Au temps des livres à Sully-sur-Loire qui a décidé de me reverser les bénéfices
bénéfices des ventes à une association qui vient en aide aux mineurs migrants.
Génial.
Cette association, c'est la Maison d'Adam, parlons-en comme ça, qui aide 12 adolescents migrants réfugiés dans le Loiret à se former, à trouver un emploi. C'est une très belle initiative de cette libraire, Aurélie Bouhours. J'espère que vous allez en masse aller la voir pour acheter plein d'autres livres à Sully-sur-Loire.
Par contre, c'est un peu dur, hein. Ils traversent comme ça toute l'Afrique, ils se retrouvent dans le Loiret. Non, mais je veux dire, si je peux apporter ma pierre...
Tu vas aller faire une masterclass pour l'expliquer comment survivre dans le Loiret quand on vient de loin.
Mais non, mais si je peux.
On parle de l'élection présidentielle beaucoup en ce moment dans les médias. Marc Duguin, est-ce que c'est une élection qui vous fait peur?
Bah, je trouve que ça dégénère pas mal. Ouais. Ça dégénère pas mal. Bah, ce qui est un peu effrayant, c'est la façon dont les médias en continu s'emparent. C'est-à-dire qu'on feuilletonne le phénomène Zemmour. D'ailleurs, je ne suis pas persuadé, moi, qu'il va se présenter, en fait.
Oui.
Je pense que c'est un leurre. Vous savez, comme on a des leurres dans la chasse aux lapins. Et non, c'est formidable parce que ça évite de parler des vraies questions.
Mm-hmm.
La gauche est en miettes. Alors droite, extrême droite, enfin c'est assez inquiétant, moi je trouve.
Quels seraient les sujets pour vous qui devraient être au centre du débat ?
Pour moi, il y a deux grands sujets. Et, il se trouve que j'ai une chronique dans un journal et que je rabats les oreilles de mes lecteurs avec ça. C'est la crise climatique. Enfin, deux sujets. Enfin, il y en a trois, mais le troisième, on en a déjà parlé, qui est évidemment d'arriver à cette égalité entre hommes-femmes et que les femmes prennent le pouvoir. Le problème, c'est que là, si c'est Marine Le Pen, si c'est une femme, c'est Marine Le Pen, on est quand même pas très avancé. La crise climatique, c'est évident que là, on va dans le mur et on continue à y aller gaiement. Et puis la révolution numérique, qui s'est accélérée avec le confinement et qui fait qu'aujourd'hui. Il y a des spectateurs en particulier qu'on retrouve pas dans les salles parce qu'ils ont pris des habitudes de séries, de rester à la maison. Mais ça, bon, à la limite, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est la société de surveillance dans laquelle on est. On est entré et à chaque fois, on renforce le système de surveillance. Ça a été l'antiterror. Maintenant, la crise sanitaire. Il y a toujours une raison, en fait, de surveiller. Plus les gens, et comme on a les moyens technologiques de le faire, on se retrouve dans une société dont les perspectives sont pour l'instant assez compliquées. Et moi, j'ai le sentiment que les vraies questions ne les intéressent pas.
Vos papiers sont dans Les Échos.
Week-end.
Parlez quand vous n'avez pas cité pour faire de
la publicité.
La publicité, mais autant le dire.
Autre question. La semaine dernière, alors que Kanye West et Drake se battaient au sommet des charts, le groupe Iron Maiden était quatrième en enregistrant le meilleur démarrage de son histoire avec son 17e album studio. Un petit extrait de Senjutsu. En quoi cette réussite est-elle différente de celle de ses concurrents? Les jeunes ne vont pas pouvoir comprendre.
Que du
Parce
vinyle.
Parce que ça sort sur OS. Ouais.
C'est pas du vinyle, c'est
du CD.
Du CD. 90% des ventes de cet album proviennent des CD. C'est quand même un peu révolutionnaire. On pensait que c'était un objet qui avait complètement disparu. Si on parle de CD à un jeune homme ou à une jeune femme, ils vont nous regarder un peu bizarrement. Vous avez encore, je sais pas, des cassettes, des vinyles, des CD. Vous en achetez encore? Ou il y a un disque que vous avez conservé, un peu Madeleine.
Malheureusement.
Elle s'appelle Valérie.
Ouais. Non, moi j'aime bien faire le tri, nettoyer, faire le vide.
Vous n'avez pas gardé de CD ?
Non, j'ai pas gardé.
Ni de vinyle.
Oh, si, je dois en avoir.
Ouais, vinyle,
je dois rester certainement.
Ouais.
Oh, j'en ai
le son est tellement bon.
Toujours, oui.
Le son.
C'est des vinyles, oui.
C'est
mais
enfer,
mais pas des CD.
Pour travailler, moi.
Les CD, vous gardez tous vos CD?
Je garde tout, les DVD,
c'est
les CD,
tout.
Les vinyles, je garde tout.
Les livres,
je suis partie de ceux qui ne gardent pas.
C'est pas par Larisse.
Par accumulation.
C'est parce que je peux pas me détacher.
C'est par transmission.
C'est par transmission, Et des DVD, je continue à en acheter, moi.
Ah bon?
Je suis le seul, non?
C'est vrai? Ah oui, non, moi j'achète pas de DVD.
Vous achetez des vieux parce qu'il y en a plus qui sortent. Hein, donc,
si, encore.
Non, mais c'est rare, ouais. C'est rare.
Mais
est-ce que vous êtes aussi
la semaine dernière?
Êtes-vous abonné à des plateformes?
Oui. Je crois que ma femme l'aime, moi je sais pas, parce que je ne sais pas me servir de ces trucs-là en fait.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a moyen de voir plein de films, y compris d'anciens.
Oui, c'est ça, ouais, elle a un truc là, ouais, on paye 2 euros et on regarde un film.
Netflix.
Ouais, mais moi c'est ça, ça me crève le cœur, payer 2 euros pour regarder un film. Je suis grandé, moi.
Ah ouais, c'est vrai.
Il y a un truc, je plaisante, je plaisante.
The Artist, c'est vendredi soir à 22h45, en direct, des auteurs, compositeurs, interprètes proposent leurs chansons. Et c'est vous, gratuitement, qui votez, qui décidez de la qualité de ces chansons et surtout de la suite de la carrière de ces artistes.
Partenariat France Inter.
Exactement. Et tous les jours à 20h sur Culture Box, Leïla Kadoboudadi vous présente des masterclass.
Oui, et je suis très très bien accompagnée. Hier, j'étais avec monsieur Pascal Obispo, on a parlé de... C'est quoi être un artiste et comment trouver son identité? Comment se définir musicalement?
On entend de la musique quand on est petit, de nos parents, nos frères et sœurs à la radio. Et puis après, on écoute de la musique. On est adolescent, on va écouter. Et si on est musicien, on va peut-être même être curieux pour chercher d'autres choses. Mais ça s'arrête très vite. Et toutes les choses qu'on va faire après, en fait, ou qu'on va aimer, parce qu'on même on est capable de dire... Ça, c'est bien ou c'est pas bien, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chanson. Il n'y a que des choses qui nous correspondent et qui correspondent à notre parcours musical, ce qu'on a entendu aussi.
Donc ça, c'est comment définir son ADN.
On entend, puis après on écoute.
Absolument.
C'est-à-dire que l'attention, la concentration n'est pas la même.
Et tout ça, ça permet aussi à se définir un peu musicalement.
J'avais entendu un jour Gainsbourg qui disait « Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a ». Ça veut dire qu'on fait avec ce qu'on a, mais je pense qu'on peut toujours bricoler avec notre ADN musical et la tête qu'on a, les cheveux qu'on a ou plus, la voix qu'on a. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir une voix... Je suis chanteur, mais en fait, je pense que je chante plus que je ne suis un chanteur.
D'accord.
Je me sens plus compositeur. Donc cette phrase a résonné. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Ouais, ben, finalement, on va faire avec ce qu'on a et puis on va avancer comme ça.
C'est très introspectif, en fait, ce que racontait Pascal Obispo, parce que arriver à savoir quel artiste on est sans vouloir copier quelqu'un d'autre ou travestir son identité, et lui, selon lui, il faut garder son âme d'enfant.
Il faut garder son âme d'enfant. Si t'as pas 16 ans quand tu composes, t'es mort. Si tu commences à intellectualiser, t'es mort. T'es mort pour la suite, je veux dire. Il faut garder le plaisir tout le temps.
Est-ce que écrire des paroles de chansons, Marc Duguin, c'est un exercice particulier ?
On me l'a proposé, mais c'est Julien Clerc qui m'en avait parlé à un moment. Je lui ai dit que j'étais assez incapable de faire ça.
Comment vous savez si vous essayez pas ?
Ben je sens pas. C'est comme j'ai fait parce que bon, tout à l'heure on parlait de tout ce que j'ai fait. Bon, mais il y a tout ce que j'ai raté aussi. Et donc, par exemple, la mise en scène de théâtre, c'est non. J'ai fait une fois, c'était pas catastrophique, mais ça fonctionne pas. J'avais fait un Tchekhov avec Jean-Pierre Daroussin, mais comme metteur en scène de théâtre. On m'a proposé de mettre en scène des opéras, c'est non. Ça, je suis sûr que je serais très mauvais. Et écrire des chansons, je pense que je serais très mauvais aussi. Donc en fait, ça veut pas dire que je suis bon ailleurs, mais en tout cas, j'ai plus confiance ailleurs.
Vous anticipez le jugement des autres sans l'avoir essayé. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont amusés.
Oui, Philippe Lavreau, par exemple, qui a fait...
Johnny, ou Philippe Djian, qui l'a fait pour Stéphane Echer aussi, des romanciers qui se sont...
Non.
Non, ça, j'ai compris. C'est pas je n'insiste pas.
Et Dieu sait si j'aime la musique, mais c'est pas.
C'est pour ça que je posais la question.
Peut-être plus tard.
The Artist, on revient à 20h ce soir sur le canal 14 de la TNT. Tu reçois
Oxmo Puccino.
Ah, bah alors là, on est dans l'écriture. Et justement, lui, c'est l'inverse. Hein. Il a écrit des chansons, il s'est mis à écrire des livres et des romans. Ouais. Et ça sera, je le rappelle, ce soir à 20h, sur Culture Box. Et à 22h45, vendredi soir, en direct.
Sur France 2, sur Nagui.
C'est ça. Évoquons votre nouveau roman, La Volonté. Là aussi, la figure du père est présente. La transmission, ça reste un sujet qui vous colle à la peau. Et justement, tout est dans le titre, c'est-à-dire de transmettre cette force de se battre et cette volonté qui est le moteur de tout.
Ben oui, ça c'est un livre que j'ai mis assez longtemps à écrire parce que pas à écrire. À me décider à écrire. Parce qu'en fait, la mort de mon père est arrivée, j'étais jeune, il était jeune aussi. Et je pense qu'il y a eu toute une période de deuil pendant laquelle j'étais incapable, qui a duré très longtemps, parce que j'étais très très proche de lui. Et j'étais incapable d'écrire. Et là, maintenant, je trouve qu'il y a une forme de joie dans la célébration des gens qui ont disparu. Et j'ai retrouvé cette forme de joie à parler de lui que je n'avais pas réussi à avoir avant. Et donc, c'est au moment du... On venait juste de terminer Eugénie Grandet. Et le confinement a démarré 3 jours après, et je me suis dit, tiens, c'est le moment de le faire. Et donc je parle de mon père, qui est un personnage pour moi extraordinaire, puisque malgré un handicap, il a eu la polio, et il vient d'un milieu très très pauvre, et en plus, ça par-dessus, donc il est soutien de famille, parce que son père est parti
aux États-Unis
pendant la guerre, pendant 5 ans, il est soutien de famille et donc il fait des travaux de ferme pour survivre, faire survivre la famille. Il braconne.
Donc c'est la méritocratie, c'est
voilà.
Le.
Et puis malgré sa maladie, ouais. Il a réussi à s'en sortir par la volonté.
La volonté, le nouveau.
La chance aussi.
La volonté. Oui, mais la chance, il faut savoir la remarquer, la respecter, et pas.
Certainement. Et c'est une forme de méritocratie à la française. Ouais. Je pense que son cas n'est pas plus fréquent aujourd'hui. Je pense qu'il est plus rare.
Marc Dugain signe chez Gallimard, La Volonté. Et vous êtes en train de tourner un documentaire, Valérie Bonneton. On peut en parler ou on n'a pas le droit ?
Sur la santé. Oui, oui, c'est un documentaire pour M6, en fait, sur la jeunesse éternelle. Donc, je suis partie au Costa Rica rencontrer des centenaires. J'ai fait un jeûne en Dordogne, je pars en Inde.
Et vous serez à l'affiche de Juste Ciel, le prochain Laurent Tirard.
Et
vous allez jouer avec Stéphane de Grotte ?
Je vais jouer avec Stéphane Le Grotte et là je tourne avec Olivia Sayas.
Qui est Monsieur Schmitt de Sébastien Thierry. Il faut toujours se méfier de Sébastien Thierry. Il est de tout. Ouais. Il est capable de tout. Ça sera dans quel théâtre ?
On part en tournée au mois de novembre, décembre, janvier, ensuite Théâtre de Paris.
Très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin ?
Oui, juste une excuse puisqu'on est un peu pressé par le temps. Désolé pour Balzac qui ce matin a pu entendre de la bouche de Marc Dugain que son livre ne méritait pas un film et que son histoire était désuète. Oh la vache !
Non.
Demain, on annule Mélanie Laurent. Droit de réponse de Balzac en direct. 11h05 dans la bande originale.
Eugénie Grandet, très bon et très beau film et intelligent aussi avec des valeurs incontournables et je pense que c'est
l'argent.
Des genres de films, la transmission, l'amour, le féminisme, genre de films que l'on peut voir en famille et ça fait partie de l'éducation, de la transmission aussi, même si c'est une réécriture de l'œuvre de Balzac, mais c'est une belle écriture, nouvelle écriture. Merci.
En parlant de transmission, je trouve que le meilleur moyen d'être féministe, c'est de donner l'exemple. En effet, voilà, je pense à moi, je viens du Nord, et je me dis, ma petite révolution, c'est de faire ce métier, et de m'émanciper de cette manière-là, et je trouve que, voilà, c'est...
Mais je pense aussi, comme Marc Dugain, que c'est aussi aux hommes d'être les premiers féministes. On a une vraie responsabilité.
Ouais, faut vraiment passer la main.
Ouais, exactement. Merci à tous les deux, en tout cas. Demain, Mélanie Laurent sera en effet pour le bal des folles notre invitée. Bonne journée, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Merci.